France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Et notre réflexion ce soir est partie d'un livre de photos que publie Yann Arthus-Bertrand avec le plus célèbre des démographes et historiens français, chercheur Hervé Lebras. Album photo de 800 portraits de Français d'aujourd'hui, un volumineux recueil intitulé « France, un album de famille » paru chez Actes Sud. La France serait donc une grande famille, ce n'est évidemment pas si simple et même assez réducteur. On va en parler ce soir avec Hervé Lebras. Pendant 2 ans, il a fallu sillonner la France en appelant la population dans toute sa diversité à venir se faire photographier. Et au final, donc, cet épais diaporama, ce kaléidoscope qui explore notre lien commun, notre histoire commune, notre destin partagé également. Et c'est de cela dont on va parler ce soir. On abordera donc moins la France ce soir que les Français de différentes origines, de différentes couleurs. On va réfléchir au sens que prend le vivre ensemble en 2026 en France. Vous écoutez Une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage pour commencer, pour illustrer cette France de 2026, c'est aussi la France des familles monoparentales. On a souvent parlé des femmes, et bien cette fois nous sommes en ligne avec un papa solo qui a participé à l'aventure de cet épais recueil de photos. Bonsoir Arnaud Duverne.
Oui, bonsoir.
Vous êtes donc un père célibataire de 54 ans avec 3 enfants de 15 à 28 ans. On vous voit en photo hein, dans ce volumineux album avec vos enfants. Vous êtes page 82, photo prise par Yann Arthus-Bertrand, donc à la mairie de Corbeil-Essonnes, je crois. D'abord, comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet ?
Ben en fait, c'est un peu parti avec d'une blague avec mes enfants. En fait, j'ai su que effectivement, Yann Arthus-Bertrand venait dans notre ville. Et puis, comme un pari, en fait, j'ai fait une blague. Je leur ai dit, venez, on va se faire une photo à l'américaine, un grand portrait où je serai assis, vous autour. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est parti d'une blague. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me retrouve dans un livre. On se retrouve dans un livre.
Mais on devient une famille monoparentale après être séparé, divorcé ou veuf, hein, sans vous demander les détails de votre vie privée. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si pour vous, ça a été subi ou choisi ?
Une fois subi, une fois choisi, les deux.
Quand on parle de famille monoparentale, est-ce que vous regrettez qu'on ne parle peut-être pas assez souvent des hommes également ?
Alors en fait, j'étais assez surpris de me retrouver dans cette catégorie, parce que quand on a fait la photo sociale, j'allais dire, effectivement, les hommes sont un peu sous-représentés socialement, ce que j'ai lu effectivement dans le livre. Et effectivement, j'étais un peu surpris de me retrouver dans cette catégorie, mais à y réfléchir, effectivement, c'est bien mon cas en fait. Donc non, c'est plutôt une bonne chose, je trouve.
Papa célibataire, comment est-ce que vous définiriez votre quotidien ces dernières années ?
Alors c'est une semaine sur deux déjà, donc il y a des moments quand même. Donc je suis pas.
C'est bien de le préciser, d'accord.
C'est ma réalité en tout cas. Oui. Il y a des moments, donc c'est une semaine sur deux, mais effectivement c'est trouver une place aussi. Des fois c'est un peu compliqué dans le couple de trouver sa place, voilà. Et là c'est vraiment, on a un moment à soi, donc moi j'adore ça en fait, en vrai.
Et papa solo avec des enfants de 15 à 28 ans, ça a eu quelles conséquences, par exemple, dans votre vie professionnelle ?
Ben alors presque aucune, j'allais dire. C'est trouver, s'organiser en tout cas pour avoir des moments pour être présent, voilà. Et puis des moments où effectivement je les ai pas, où là j'ai de la liberté en fait. Donc c'est assez bénéfique aussi personnellement. Alors après effectivement ça a d'autres contraintes. C'est effectivement refaire couple, c'est plus compliqué. Enfin c'est un choix, mais voilà c'est mon choix en tout cas.
Et le fait de vous retrouver donc dans ce livre, ce kaléidoscope qui montre une partie des Français d'aujourd'hui, devenir un marqueur publié dans ce recueil, ça a quel sens à vos yeux ?
Oui, c'est plutôt symbolique. C'est voilà. Enfin, moi, je prends pas pour moi. C'est vraiment symbolique. Et voilà, comme je vous disais, j'étais tellement surpris en fait de me retrouver dans cette catégorie et puis déjà d'être dans le livre. Voilà. Mais quand on regarde la photo d'ensemble, c'est plus ça que je trouve intéressant moi dans ce livre, c'est voir la photo d'ensemble en fait de tous ces portraits. Ça montre une France diversifiée, de la fraternité. Enfin, moi, j'ai vraiment le moment en plus où a été prise la photo. En fait, ça se passe dans la mairie de Corbeil-Essonnes. Il y a plein de monde, ça bouge, ça discute, ça chante. C'était vraiment un moment joyeux. Et rien que ça, déjà, c'était bien. Et puis après, c'est drôle parce que là, voilà, vous m'appelez ce soir, mais en fait, c'est un petit fil qui part d'une blague, qui finit par une photo, puis un livre, puis une interview. Donc voilà, c'est un petit fil qui va faire partie de notre histoire maintenant dans la famille, quoi.
Voilà, c'est votre quart d'heure de gloire qui s'éternise un petit peu. Et merci beaucoup de ce témoignage.
Si, un petit dernier mot, je suis désolé, mais j'avais un ami qui a vu effectivement ce livre qui s'appelle Pierrot, qui est décédé la semaine dernière. Et je voudrais juste lui faire cette petite dédicace parce que il aimait la famille, il aimait la France. La France est belle et il a adoré ce bouquin.
Eh bien, la France est belle, c'est de cela dont on va parler ce soir. Merci beaucoup de ce témoignage, Arnaud Duverne. Et on vous verra donc avec vos enfants, page 82 du livre de Yann Arthus-Bertrand, avec aux commentaires et à l'analyse le démographe, géographe, sociologue, historien, enseignant-chercheur. Bonsoir Hervé Lebras.
Non, je t'ai plus.
La carte de visite est trop petite pour mettre toutes vos dénominations. Vous avez donc signé avec le photographe Yann Arthus-Bertrand cet épais recueil de photos, portraits des Français, dans lequel donc vous analysez les Français selon différentes thématiques, selon les photos, la vie des Français d'aujourd'hui. On vient d'écouter ce papa solo qui représente dans le livre la famille monoparentale. Les pères célibataires sont de plus en plus nombreux en France, que ce soit par choix ou de façon subie. Ce célibat avec enfant, est-ce qu'il est devenu un marqueur important de la mutation de la société française ?
Oui, il en est un, mais ça remonte déjà à un certain temps, ça a progressé assez lentement, et puis maintenant quand on regarde les chiffres, en fait si on prend l'ensemble des enfants, de ceux qui ont moins de 18 ans, 68% vivent avec deux parents, 18% avec une mère seule, et 3% avec un père seul, ce qui est le cas de la personne qu'on a entendue, et 11% dans des familles recomposées. C'est peut-être d'ailleurs les familles recomposées qui sont l'élément le plus nouveau. Les familles monoparentales étaient plus anciennes. Le commentaire que j'ai fait sur cette photo, et plus exactement, il y a 4 photos. Il y a 3 photos de familles monoparentales féminines, et puis la photo de ce monsieur, justement, parce que le but du commentaire, c'est de passer d'un cas particulier, le cas de ce monsieur par exemple, à une formulation plus générale à ce qui se passe dans l'ensemble de la France.
Ce célibat avec enfant, donc, dans ce livre, est-ce que ce livre est aussi une réponse à ceux qui ne conçoivent la famille qu'avec un papa et une maman ?
Oui, c'est pas le but du
c'est
livre.
Pas le but, mais c'est aussi un message que vous envoyez.
Non, le but est plutôt montrer qu'il y a une grande diversité dans les familles, dans la façon de faire famille. On montre, par exemple, dans la partie qui concerne les familles, on voit des familles nombreuses, on voit des familles homoparentales, on voit justement des familles monoparentales. Il y a, dans un cas, on voit des familles où il y a seulement des filles, par exemple. Mmh. On essaye de montrer, d'ailleurs, pas simplement pour les familles, pour l'ensemble des sujets de l'ouvrage, on essaye de montrer à la fois une grande diversité et aussi, et ça a été bien dit par votre interlocuteur, aussi une grande solidarité, une grande façon qu'ont les Français de vivre en commun et qu'on oublie un peu trop, où on les traite d'individualistes à tout craint.
Et quel sens donnez-vous à l'expression qu'on lit dans ce bouquin « faire société » ?
Oui, c'est pas une... on le trouve parfois, mais c'est plutôt insister sur l'importance d'avoir des relations. Ça remonte à très longtemps. Je crois que dans un des textes, je vais jusqu'à citer Aristote qui, dans la politique, dit « L'homme est un animal politique ». Politique, ça vient de polis, la ville.
La vie de la cité.
Oui, c'est-à-dire l'homme n'est homme que parce qu'il vit avec ses semblables. Et on a quelquefois tendance à un peu le sous-estimer.
Hervé Lebras, vous restez avec nous. On va continuer de détailler cet album France que vous co-signez avec Yann Arthus-Bertrand. À la page 654 de ce livre, on verra un homme, pas tout jeune, avec un nounours dans les bras. Le nounours, pas tout jeune non plus. Une forme de poésie pour adoucir notre quotidien. Redonner vie au nounours mal en point, eh bien c'est devenu le métier de cette bourguignonne qu'on va entendre. Elle est installée à Saint-Bernon, près de Dijon, et elle prend donc en charge les doudous abîmés de notre enfance, sachant qu'un adulte sur deux a gardé son nanin. Voilà pourquoi dans cette clinique des doudous, on croise souvent des adultes et aussi parfois des enfants, comme dans ce reportage. On vous propose donc une plongée dans un autre monde, tout en douceur. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
à peine poussé la porte, le ton est donné.
Appelez-moi docteur.
Docteur Doudou.
Oui, je suis docteur de Doudou.
Parce qu'on ne badine pas avec les petites peluches.
Ben oui, c'est mes patients. Quand ils arrivent, en fait, il y a une première auscultation. On définit les soins dont ils doivent bénéficier. Et puis ensuite, on prend un rendez-vous. Et quand ils arrivent pour la cure, je les installe dans les petits lits ici. Il y a toute la fiche d'informations sur ce que je vais faire avec le Doudou, les tissus que je vais utiliser, puis la date à laquelle est prévue l'opération.
Et le bloc opératoire, c'est là.
Le bloc opératoire, c'est ici. Voilà. Je travaille avec vraiment un mini bistouri. C'est un petit outil qui va me permettre de découper toutes les réparations qui ont eu lieu avant que j'intervienne. Donc la maman, la tata, la mamie, qui a recousu et elles ont déformé en fait souvent le doudou.
Et qu'est-ce que c'est que ça là ?
Et alors ça c'est un tout petit coupe-fil en fait. Parce que des fois il faut que j'aille très très près du doudou et je veux pas couper le doudou. Donc j'utilise ça pour couper mon fil.
C'est de la chirurgie esthétique, en fait.
Mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'autoplastie quand j'ai refabriqué l'oreille, c'est la rhinoplastie quand il a perdu sa truffe. Ça peut être aussi des chirurgies reconstructrices des membres.
Est-ce que certains ont le pronostic vital très engagé ? Est-ce qu'ils tiennent à trois fils, par exemple ? Ou vous dites, mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir.
Oui, il y en a certains, quand ils arrivent, vraiment, le pronostic vital est engagé.
Un exemple.
Par exemple, Chameau. Chameau, vous voyez, il est plein de trous partout. Là, la jambe, elle est complètement déchirée. Et la trame du tissu, elle est atteinte parce qu'elle est en train de se détricoter en fait. Mais Chameau, moi si je le recouvre d'un nouveau tissu, ça va être un nouveau Chameau, puis ce sera plus Chameau. Donc je vais reconstituer, par exemple je vais refaire une jambe, je vais refaire un corps et je vais glisser ces parties refaites avec un tissu neuf à l'intérieur. Et ensuite je vais venir repriser, fixer chaque petit morceau de Chameau sur mon support. Je lui mets des prothèses en fait, mais à l'intérieur. À l'extérieur, ce sera toujours Chameau.
Quoi d'autre encore ?
Une autre fois, j'avais une petite souris, le fil qui cousait sa bouche, il était décousu, donc ce fil pendait. Et cette personne, elle l'avait appelé, quand elle était petite, elle avait appelé la souris à la crotte de nez. Donc si je répare ce fil qui pend, c'est plus la souris à la crotte de nez. Et du coup, j'ai tout réparé, sauf ce fil.
Si Doudou perd son âme, c'est la cata pour les clients.
Je vois leurs yeux qui sont stressés. Ils vont me confier le doudou, est-ce que je suis digne de confiance ? Est-ce que ça va pas être un autre doudou ? C'est pas du tout anodin, en fait. C'est pas, je répare pas un blouson, en fait. Donc c'est hyper sérieux.
Vous passez combien d'heures sur un doudou ?
Alors ça, c'est très, très variable. Le plus long que j'ai opéré, j'ai passé 15-16 heures dessus. Ouais.
Avec effluves d'enfance.
C'est trop drôle. Chaque humain a une odeur, mais chaque doudou aussi.
Je le sens en le manipulant. Là.
Oui, oui, oui.
Là, c'est carrément le carnet de soins.
Voilà, où on retrouve toutes les fiches patients. Donc là, il y a Akek, Zaisho, Tata, Chouchoun. Celui-là, il faut que je m'entraîne à le dire, mais c'est Dovenschmirtz.
Encore.
Il y a Pilio, il y a Canou, il y a Pépette, il y a Gros Soussou.
À la douche, combien de doudous soignés ?
Dans une année, je ne sais pas, je vais avoir 800-900 demandes.
Le prochain, c'est Lapinou, il a 20 ans, sa propriétaire le serre dans ses bras.
Et bien, Lapinou, il est bleu, il a une oreille triangulaire orange. Normalement, il a une deuxième oreille, mais elle est tombée. Donc, elle va pouvoir me recoller mon oreille qui manque.
Encore aujourd'hui, vous lui faites des câlins à Lapinou ?
Ah oui, 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 bien sûr. C'est mon aide à m'endormir, c'est mon odeur, c'est...
Si vous le perdiez...
Oh, si jamais je le perds, ça serait quelque chose de grave dans ma vie.
Explication, docteur.
Aujourd'hui, on a des vies, on est sollicité en permanence. Alors, le boulot, les réseaux, tout le temps, vous avez plein d'infos qui vous arrivent dessus. Il y a un moment dans la journée, si on peut juste câliner son doudou, on se réancre, en fait.
Et on repart dans l'enfance.
Oui, mais même pas, c'est même pas conscient. En fait, vous vous reconcentrez sur vous. Moi, il y a des gens qui m'expliquent, ils le câlinent pas, ils le posent sur leur cou avant de s'endormir. Il est posé sur leur cou, mais ils ont besoin de sentir ce petit poids calé sur eux. Et je trouve ça génial.
Ça vous est venu comment ?
Mais en fait, j'ai toujours trouvé triste, vous savez, les doudous qu'on jette à la poubelle parce que genre, il leur manque un bras ou... Je trouve ça horrible. Et ben en fait, un jour, je me suis dit, moi, je sais fabriquer des choses, je sais réparer des choses. Pourquoi je ferais pas ça avec les doudous ?
Vous êtes en soirée, vous êtes avec des inconnus, vous dites quoi ?
Ah mais ça m'est arrivé hier, ça. On m'a demandé ce que je faisais et j'ai dit, bah, je suis chirurgien en doudou.
Et votre doudou à vous ?
Il s'appelle Mamo.
C'est quoi ?
Ben c'est un chameau.
Voilà donc pour ce reportage de Sandrine Houdin dans la clinique des Doudous et autres nanas à Saint-Bernon, près de Dijon. Hervé Lebras, je rappelle que vous avez co-signé avec Yann Arthus Bertrand ce volumineux diaporama des Français d'aujourd'hui dans leur diversité chez Actes Sud. On vient d'écouter dans ce reportage des adultes à la recherche d'un monde de douceur au final qui les ramène vers leur enfance. Cette forme de régression un peu passéiste, est-ce qu'elle est à mettre en miroir avec une violence actuelle que ressentirait particulièrement en ce moment une partie des Français?
Difficile à dire parce que, à nouveau, c'est une série de cas particuliers. Donc la difficulté, c'est à partir de ces cas particuliers d'essayer d'établir ce que j'ai appelé pour l'ouvrage un recensement sensible, c'est-à-dire que un recensement, c'est des colonnes de chiffres, mais ça vous dit exactement combien il y a de boulangers, combien il y a de faits de violence, notamment, mais ça ne vous dit pas combien il y a peut-être au fond des faits de non-violence. Et dans l'exemple que vous donnez, effectivement, c'est un aspect qui n'est pas pris en compte par les travaux statistiques. Donc, ce qu'on a cherché à faire avec Yann Arthus Bertrand, c'est justement d'explorer aussi ce qui n'est pas pris en compte. On a parlé tout à l'heure des familles monoparentales. Elles sont bien prises en compte. Elles sont décrites. On sait leur niveau de vie. On sait, par exemple, que c'est la partie la plus pauvre de la population et d'assez loin, puisque 32%, enfin un tiers d'entre elles sont au-dessous du seuil de pauvreté, alors qu'une famille analogue avec deux parents, c'est seulement 8 à 10%. Mais d'autres éléments, au fond, d'autres situations, comme celles qu'on vient d'entendre, échappent un petit peu, au fond, à la statistique, échappent à une prise en compte plus générale. Par exemple, dans le livre, on s'est beaucoup occupé des associations, beaucoup occupé de la solidarité, de l'entraide. Par exemple, des confréries aussi, qui sont une autre façon de vivre en société, aussi de petits métiers ou de grands métiers qu'on oublie. Par exemple, on a parlé des influenceurs. Voilà quelque chose que vous ne trouverez pas non plus, ni dans le recensement, ni dans beaucoup d'études. Au fond, on a vraiment cherché à montrer la France d'aujourd'hui. Alors, elle comprend, c'était votre question, elle comprend des aspects un petit peu passéistes, mais des aspects souvent touchants. Mais en même temps, elle fait preuve d'une très grande vitalité. On regarde notamment l'importance des aidants en France. Voilà quelque chose qu'on souligne
pas assez. Et on les voit dans le bouquin, effectivement. Et vous disiez, et vous commentiez votre travail, c'est-à-dire de faire d'un cas particulier un peu des quelques thèses, mais vous trouvez que nous avons tendance à faire trop vite, en général, en France, d'un cas particulier, une vérité générale. Cette globalisation de ce que vous appelez le fait divers, c'est un de nos travers aujourd'hui.
Je pense pas que c'est un travers français, je pense que c'est beaucoup plus généralement un travers mondial. De plus en plus, c'est la même chose si vous regardez la BBC ou CNN, ou encore plus Fox News. C'est vraiment, on part d'un fait divers et puis on fait comme si ce fait divers représentait l'ensemble des situations dans le pays ou même sur la planète. Et cette tendance a été exaspérée d'abord parce qu'il y a une course à, au fond, l'événement singulier qui va vous attirer l'attention. Et il y a de moins en moins, au fond, de temps qui est pris pour la réflexion, pour regarder ce que représente la question ou l'événement qui est observé. Et c'est aussi encouragé par les politiques. Je suis frappé que maintenant, très souvent, une discussion ou une loi est proposée à la suite d'un cas particulier, d'un incident, comme s'il fallait cela pour déclencher une réflexion.
La classe politique surréagit et court après l'actualité pour être présent aussi chaque soir dans le 20h de TF1 ou de France 2. Hervé Lebras, on va reprendre cet entretien sur les Français d'aujourd'hui. On évoquera pourquoi pas la France rurale en ces derniers jours de Salon de l'agriculture. Ce sera après cette chanson de Bertrand Belin qui s'interroge sur le métier de berger.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre au bas des falaises. Adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je? Un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut.
Bertrand Belin, qui n'a pas voulu devenir berger de peur de perdre le troupeau. Bertrand Belin, extrait de son dernier album. C'est le choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20.
Et dans sa chanson, Bertrand Belin évoquait donc le métier de berger. On voit des bergers, d'ailleurs, dans votre livre, Hervé Lebras. Je rappelle que vous êtes démographe, historien. Un mot sur le monde rural, puisque nous sommes à la fin du salon d'agriculture. Un salon sans bovins, un monde rural en mutation. Lorsque vous projetez vos connaissances historiques et démographiques, quelle idée vous faites-vous du monde paysan dans quelques décennies?
Difficile de dire dans quelles décennies, mais déjà dans le monde paysan actuel, il se trouve que j'avais fait un ouvrage avec un chercheur de l'Institut agronomique sur qui étaient les pays, pas les paysans d'ailleurs, les agriculteurs actuellement.
Faites une différence entre paysan et agriculteur.
Paysan, c'est un petit peu le passé. Agriculteur, ça indique bien que c'est devenu un métier qui est un métier très technique.
Ce sont des chefs d'entreprise souvent maintenant.
Alors, une partie, justement, il y a au fond trois catégories de paysans. Il y a des paysans, je dirais à l'ancienne, qui sont dans la polyculture, qui demandent beaucoup de compétences aussi. Et puis, il y a les gros agriculteurs, par exemple dans le nord de la France ou dans la Beauce, qui eux sont dans ce qu'on appelle l'agriculture productive. Alors, c'est des chefs d'entreprise, souvent d'ailleurs avec un bagage universitaire. Et puis, vous avez de plus en plus tout ce qui est agriculture écologique et biologique qui se développe et sur laquelle on a consacré quelques photos, ainsi que d'ailleurs les deux autres formes d'agriculture. Donc, comment tout cela va évoluer? Il y a une vision pessimiste, mais elle n'est pas dans le livre. Cette vision pessimiste, c'est que, en temps donné la concurrence internationale, et on le voit encore maintenant avec cette affaire du Mercosur, il risque d'y avoir une montée du productivisme. Ça, c'est la vision, je dirais, mondialement négative. Et puis, il y a l'espoir qu'une agriculture plus biologique, ou du moins plus naturelle, puisse continuer à prospérer. Mais vous voyez qu'actuellement, au contraire, la vente dans l'agriculture biologique a diminué en France au cours des dernières années.
Vous parliez d'un peu de pessimisme. Alors, il y a un point commun à toutes les photos, c'est la banane. Hein. Le sourire, pardon, qu'ont les personnes photographiées. On en parlait un petit peu hors antenne à l'instant. Est-ce que c'était un passage obligé de demander à tout le monde de sourire?
On ne demandait pas. Les personnes arrivaient, et comme votre interlocuteur au début vous l'a dit, elles étaient dans des dispositions assez heureuses. Mais c'était aussi ce que demandait ou ce que souhaitait Artus Bertrand. Il y avait quelques principes à la fois pour les photos et pour les légendes que je faisais. Pour les photos, il y avait une bâche brune à l'arrière et les personnes devaient venir avec quelque chose, un objet ou un animal parfois qui indiquait leur profession.
Je suis surpris par le nombre d'animaux et notamment de chiens sur les photos. C'était, c'est considérable.
Vous savez que les Français eux-mêmes ont beaucoup de chiens et encore plus de chats et même le plus grand nombre d'animaux domestiques, c'est les poissons rouges. Et voilà. Mais là, on n'en a pas photographié avec des poissons rouges. Et puis, je voulais dire que d'une part, il y avait les principes qu'avait Artus Bertrand pour les photos, et d'autre part, j'avais des principes aussi pour les légendes, c'est-à-dire la légende devait partir du cas particulier, le généraliser, et puis si possible, terminer par une phrase qui lançait vers des conditions ou des considérations beaucoup plus générales. Donc il y avait des guidelines, comme on dit en anglais.
Ce recueil de photos est intitulé France, album de famille. Or, la facilité serait justement de s'en tenir à un concept de grande famille. France, cette métaphore familiale, ne peut pas à elle seule définir l'identité française.
Non, bien sûr, mais dans l'idée famille, et je le rappelle dans un des textes et dans l'introduction, c'est un terme beaucoup plus général, et je rappelle que un très grand philosophe, Wittgenstein, a utilisé une expression, les airs de famille. Et par cette expression,
famille, oui.
Il signifie que la famille, c'est en fait un regroupement de proche en proche. Et c'est notre idée, c'est-à-dire que ce qui fait la France, c'est que de proche en proche, il y a des liens, il y a des connexions, il y a des solidarités, si bien que vous pouvez être à un bout de ces liens, et puis de proche en proche, vous arrivez à un autre bout et les deux bouts ne se connaissent absolument pas. Mais ils sont reliés, et les Français sont reliés entre eux. Quelque part, c'est un peu une définition aussi de la France, plutôt que de dire un hexagone, ou que de dire des cartes d'identité, ou que de dire, au pire, un béret basque et puis une baguette. C'est vraiment le fait que le pays existe parce que les habitants ont des liens profonds entre eux.
Et vous montrez aussi une France colorée. Faut-il rappeler aujourd'hui, y a-t-il encore besoin de rappeler que toutes les couleurs de peau ont leur place dans l'histoire et dans l'avenir commun des Français ?
Ce qu'on a voulu montrer, surtout dans ce cas-là, c'est pas simplement qu'il y avait des personnes, comme vous dites, de couleur ou des personnes d'origine très différentes de ceux qui sont depuis plusieurs générations en France. Ce qu'on a voulu montrer, c'était que ces personnes sont intégrées, c'est qu'elles travaillent avec des Français, qu'elles sont associées avec des Français, parce qu'on a trop tendance, par exemple, à dire immigrés, non-immigrés, comme dit l'INSEE. Mais c'est pas deux populations différentes, c'est un caractère qu'on mesure, mais ces deux populations vivent ensemble et les deux se mélangent beaucoup. C'est pourquoi on a très souvent, on n'avait pas besoin d'insister, les personnes qui se présentaient étaient d'origine très diverse, qu'elles soient dans un hôpital, qu'elles soient dans une école, qu'elles soient dans une association, qu'elles soient souvent pour la solidarité.
Sa diversité. Mais ça dit, quand vous montrez des personnes d'origine étrangère, donc quand vous les montrez bien intégrées, est-ce que vous ne faites pas preuve un peu dans ce bouquin d'un peu d'angélisme de ce point de vue, quand on entend les discours identitaires de certains courants politiques qui parlent fort en ce moment ?
Non, je pense pas que ce qu'on montre, c'est la vie quotidienne. C'est pas. Alors ensuite, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens très méchants dans les gens qu'on a pris en photo, peut-être, mais ça peut être aussi bien des gens français d'origine que des gens qui viennent.
Je parlais moins d'eux
que
de la façon dont ils sont perçus, surtout.
Oui, bien sûr, mais c'est un vaste
parfois
sujet. Mais je crois que justement, il y a une. Vous savez, je vais rappeler une chose très simple qui est un autre de mes livres. Le vote pour l'extrême droite est d'autant plus important qu'il y a moins d'immigrés dans le voisinage. C'est une constante. J'ai fait un livre là-dessus,
oui.
Et il y a de quoi être surpris. Et je peux vous donner des exemples très forts.
Dans les communes où il n'y a pas de personnes de couleur.
C'est celles qui votent le plus pour l'extrême droite actuellement. Prenez, vous avez même un exemple extrême, c'est que le département actuellement où la proportion, selon l'INSEE, la proportion d'immigrés est la plus faible dans le recensement, c'est le Pas-de-Calais, c'est le second département qui a le plus voté pour l'extrême droite. Donc là-dedans, il y a, c'est de l'ordre du fantasme, et quelque part, au fond, ce que montre le livre, c'est justement, ça n'est pas du fantasme, c'est des situations concrètes dans lesquelles on voit qu'il y a à la fois des gens d'origine sans doute étrangère, d'ailleurs qui peuvent être d'origine française très lointaine, s'ils viennent des Antilles ou de la Réunion, c'est pas non plus, la couleur de peau n'est pas une indication forte du fait qu'on soit immigré ou pas.
Évidemment, et au final, ce que vous montrez dans ce livre, c'est que les Français peuvent souvent rester optimistes malgré les difficultés qu'ils rencontrent.
Une autre question là.
Merci justement. Beaucoup, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Merci beaucoup Hervé Lebras d'être venu parler du lien qui unit les Français. Et je renvoie à cet ouvrage, donc France, un album de famille, paru chez Actes Sud. Une semaine en France avec Charline Legris à la rédaction en chef, Juliette Gou à la réalisation et merci également à Benjamin Ducy. À la technique ce soir, Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Achille Aquenin. Philippe Duclos, c'est ta dernière ce soir. Et comme on sait que tu aimes bien le groupe Queen et David Bowie, Queen surtout, eh bien ce morceau, il est spécialement pour toi.
So slashed and torn.
Under Pressure, être sous la pression, David Bowie et Queen. Queen, l'un des groupes préférés de Philippe Duclos, il connaît toutes les paroles, je l'ai vu chanter derrière la vitre. Philippe Duclos, dont c'est la dernière ce soir à la console. À suivre, le multiplex des régions.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos amis du réseau ici. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Normandie-Rouen, ici Berry, ici Sud-Lorraine. Laurent Philippot, Gaël Fontenay et Mandjibani, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
À Vernon, en Normandie, pour commencer, Laurent Philippot. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est venu s'impliquer dans la campagne des municipales.
Et oui, parce qu'à Vernon, deuxième ville de l'Eure, Sébastien Lecornu n'est pas que le Premier ministre. C'est celui qui a fait ses études à Saint-Adjutor. C'est celui qui a été maire de 2014 à 2015 avant de devenir président du conseil départemental, avant de démissionner pour rejoindre Emmanuel Macron. Alors pour ces municipales, il est en troisième position sur la liste de François Ozillot, des amis de 20 ans. Alors évidemment, hein, le Premier ministre ne fait pas de porte-à-porte, mais il a quand même passé quelques soirées à Vernon pour construire le programme. Et il est là pour les grands événements, même s'il n'est plus maire depuis 11 ans. Il est toujours conseiller départemental, où il était là pour le lancement de la liste Génération Vernon. On le voit de temps en temps sur le marché. Souvenez-vous de cette photo de Sébastien Lecornu avec son poireau. Alors avoir un Premier ministre sur sa liste, c'est un avantage, dit le maire sortant. Les colistiers ont publié cette semaine une photo sur les réseaux, une photo avec leur chat ou leur chien. Tiga, la braque hongroise de Sébastien Lecornu, a recueilli 54 suffrages, juste devant les 50 voix d'Inti, un adorable Akita Inu. À Vernon, vous voyez, le scrutin est serré, au moins chez les animaux.
De la Normandie, une diagonale jusqu'au dans le Berry, Gaëlle Fontenay, avec cette pétition qui réclame la panthéonisation de Georges Sand.
Ouais, c'est un dossier qui a longtemps divisé. Maintenant, ça y est, il rassemble l'autrice, femme de lettres, écologiste, humaniste, sociologue et encore tout un tas d'autres talents. Et l'emblème du Berry, elle est enterrée à Nohant. Nohant, c'est donc dans sa propriété de l'Indre. Et une partie des Berrichons refusait que son corps ne soit déplacé, d'où la proposition de recourir à un cénotaphe, un peu de terre de chez elle, une branche de cèdre qu'elle a aimée, quelques souvenirs d'ici à déposer au Panthéon. Ça a mis tout le monde d'accord. Le comité de soutien s'active. Donc, il y a eu un premier rendez-vous en janvier avec le cabinet d'Emmanuel Macron. Une soirée au Sénat il y a 15 jours, et maintenant donc une pétition.
La pétition.
Eh oui, parce qu'il y a cette frénésie maintenant, parce que Georges Sand, elle a disparu en 1876, ça va faire 150 ans en juin. Cette année est marquée par de nombreux événements, il y a du théâtre, des expositions, des créations, il y aura même un prix littéraire. L'idéal, ce serait donc en plus une panthéonisation, d'autant qu'aujourd'hui au Panthéon, il n'y a que 8 femmes, mais elle n'est pas la seule en course. On parle de Gustave Eiffel, de Léon Blum, qui seraient eux aussi potentiellement panthéonisable, d'où cette pétition pour que l'opinion publique se mobilise, si possible, au-delà du Berry. Je viens de vérifier les chiffres, on est à 5152 signatures précisément. Alors si vous voulez signer pour la panthéonisation de Georges Sand, il suffit de taper panthéonisation sur un moteur de recherche et vous allez tomber dessus.
Mais vous savez ce qu'il nous reste à faire et on ira revisiter, pourquoi pas, la maison, la propriété et les jardins de Georges Sand à Nohant, donc dans l'Indre. Merci Gaëlle Fontenay. On va parler de football à présent, ou plutôt de la violence dans ce sport. À Nancy, Mohand Chibani, le match de vendredi dernier contre Grenoble a donné une bien triste image.
Oui, absolument. 10 minutes après le coup d'envoi, l'arbitre a interrompu le match à cause d'une épaisse fumée rouge venant des tribunes des supporters adverses, les Grenoblois. Alors l'enquête le dira, mais il semblerait que les fumigènes aient été cachés sous les sièges du parcage visiteur à la veille du match par un groupe d'ultra de l'AS Nancy-Lorraine et que ces fumigènes ont été déclenchés à distance par télécommande le jour du match. Un mode opératoire élaboré. Il paraît que c'est une première en France, mais cet événement soulève de nombreuses questions sur la sécurité. Y a-t-il eu des manquements lors de l'inspection du stade? Le match avait été classé à risque, niveau 3 sur 5. Il ne s'agissait cette fois que de fumigènes, mais les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves s'il avait été question d'un engin explosif.
Et les faits ont été jugés suffisamment graves pour que la justice s'en mêle, Mohand.
Oui, le parquet de Nancy a décidé d'ouvrir une enquête. Le club et la métropole du Grand Nancy ont porté plainte. La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football s'est réunie mercredi soir et a pris la décision à titre conservatoire d'imposer le huis clos total pour tous les matchs au stade Marcel Picot en attendant d'examiner le dossier sur le fond le 11 mars prochain. Grosse amende, retrait de points, match à huis clos jusqu'à la fin de la saison en pleine lutte pour le maintien en Ligue 2. Le club au Chardon risque de lourdes sanctions.
Merci à tous les trois et pardon pour cette liaison un peu altérée avec Mohand Chibani à Nancy. Merci à tous les trois, l'actualité en région avec l'indispensable concours des radios du réseau. Ici, à suivre le journal de 19h de Sarah Mansoura, puis ce sera le téléphone sonne dans un instant.